Je me rappelle que pour la Pologne, parce que j'étais dans ces négociations, il y avait 31 critères dont les Polonais se fichaient pas mal, puisqu'ils étaient rentrés dans l'OTAN. Ils avaient le bouclier, ils savaient bien qu'un jour ou l'autre, ils rentreraient dans l'Union européenne et bénéficieraient des subsides de l'Union européenne. Toujours mes deux virus. Et dernier épisode de cette construction, la phase suivante. Alors j'ai repris la 2004. 2009, c'est en vert, mais j'aurais pu le mettre également en bleu. Le traité de Lisbonne de l'Union européenne crée enfin, une avancée dans la défense par la création de d'un organisme et d'un responsable, un haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et un service européen d'action extérieure qui a vocation, sous la houlette du haut représentant, à doter l'Europe d'une politique d'action extérieure. Petite incidente au passage, les Anglais, vous le savez, n'ont jamais voulu qu'il y ait de puissance continentale, ça fait plus de 1000 ans, et donc chaque fois que l'Europe a commencé à se construire, surtout autour du couple franco-allemand, ils ont cherché à nous mettre des bâtons dans les roues. Et quand ils n'arrivaient pas à nous mettre des bâtons dans les roues, je vais juste prendre l'exemple du premier haut représentant, il nous glisse un Anglais, c'était Lady Ashton, qui était nul, totalement nul dans tous les domaines, et qui était là pour empêcher que ça marche. Voilà. Comme ça qu'ils ont fait, ça pour le premier état-major européen, ils ont mis un général anglais pour empêcher que ça marche. Pour la première mission de l'Europe, l'Union européenne en Bosnie, ils ont mis un général anglais pour empêcher que ça marche. Et tout le monde a dit oui, parce qu'avoir les Anglais dans l'Europe, c'est toujours assez sympa, surtout quand on est politique. L'OTAN s'élargit, vous voyez les colonnes de droite. Et en 2010, bleu foncé, parce qu'avec les Anglais, on revient périodiquement, ensemble, on signe un traité, dit de Lancaster, entre Blair et Sarkozy, donc Cameron et Sarkozy, pardon, traité de Lancaster House, qui est intéressant parce que ce traité, il y a un véritable enjeu. Alors c'est un traité qui, dont une partie est secrète, celle qui touche le nucléaire, et une partie est officielle, celle qui vise à, faire en sorte que nous soyons équipés d'équipements compatibles, qu'on s'entraîne ensemble, etc., etc. Pourquoi les Anglais et pourquoi une partie secrète? Pourquoi les Anglais? Parce que en Europe, on est en 2018, mais c'était vrai en 2010, c'était vrai en 1990, etc. La seule armée de projection, c'est-à-dire capable de se déployer rapidement avec un système politico-militaire de décision rapide, avec des équipements compatibles, avec une vraie professionnalisation de la projection, c'est la France et le Royaume-Uni. On est à égalité. Il n'y a pas de meilleur l'un que l'autre. Actuellement, les Anglais sont un peu fatigués parce qu'en plus de nous, dans les 15 dernières années, ils ont fait la deuxième campagne d'Irak, donc ça les a un petit peu épuisés. Mais sinon, on est au même standard. Moi, je peux en parler en connaissance de cause, puisque j'ai commandé les forces franco-britanniques, forces navales franco-britanniques, pendant les bombardements du Kosovo. Donc c'est mon expérience de terrain. Donc j'étais le chef, c'est plus sympa quand on est le chef avec des Anglais sous les ordres, mais je veux dire, c'est des très grands professionnels, on s'entend comme larron en foire dès lors qu'on a le même objectif. Donc chaque fois qu'on veut avancer sur la défense en Europe, nous n'avons qu'un partenaire, qui est le partenaire anglais. Mais lui ne veut pas d'Europe. Et nous, on voudrait bien les amener dans l'Europe, sans trop y croire, car aucun de nos politiques, sauf peut-être Arnaud, mais il n'a jamais eu, je ne vais pas poser la question, tiens, je vais poser la question en tête à tête, aucun de nos politiques depuis De Gaulle n'a vraiment vendu l'Europe à nos concitoyens. Il n'y a cru. Franchement, je ne vois pas qui, je parle des présidents, des premiers ministres, je ne vois pas qui a été un Européen convaincu dans la période post-De Gaulle. Donc, on ne peut faire qu'avec les Anglais, et dans ce traité, qui avait... alors, je passe sur d'autres traités, parce que je vous ai cité le Kosovo en 1999, ça suivait immédiatement ce qu'on appelait les accords de Saint-Malo, qui étaient les accords franco-anglais, Chirac-Blair, où déjà on commençait à se mettre ensemble pour faire des opérations. Et comme ça, comme moi j'étais le premier autour de Bête, comme ça que c'est moi qui commandais les Britanniques. Donc, dans ce traité de Lancaster, on a décidé de faire un peu plus de fusion d'industrie quand c'était possible. Je ferai peut-être un aparté sur l'industrie de défense tout à l'heure. Et de continuer à s'entraîner. Mais on sait travailler ensemble. On a toujours su travailler ensemble. Alors, les armées de l'air et les marines, pas de problème. Pour la raison que les armées de l'air, dès qu'elles sont en l'air, on peut travailler qu'ensemble, donc dans le temps, et que les marines, comme on était les deux seules marines européennes à être un peu partout, on a toujours travaillé ensemble. Pour les armées de terre, ça a été un petit peu plus long, parce que sur le terrain, les armées sont déployées selon des postures géographiques, on ne mélange pas tout, c'est un peu logique. Donc il a fallu qu'ils apprennent à se connaître, ça a été les événements de Bosnie, de l'ex-Yougoslavie, qui les ont remis ensemble, mais les 30 ou 40 ans qu'ils avaient passés, en particulier dans l'armée qui était postée en Allemagne, l'armée britannique du Rhin qui était dans le nord de l'Allemagne et la nôtre qui était le long de nos frontières, il n'y avait quasiment pas de contact. Donc nos deux armées terre ont appris à se connaître et à s'apprécier. Alors, quand je dis elles sont équivalentes, elles sont équivalentes en nombre, en volume, en valeur, en quantité, etc., etc. Et, je disais, un système politique de décision qui fait qu'on engage les forces très rapidement du côté du Premier ministre anglais ou du côté du président français, c'est un processus quasiment identique. Aucun autre pays n'a ce genre de processus. Après, on repasse devant le Parlement, bien sûr, mais ça permet de décoincer en 48 heures quand on veut. Alors, je reviens toujours sur mon traité de Lancaster. Ce traité, la deuxième partie, elle concerne le nucléaire. Alors le nucléaire, j'empiète un peu sur peut-être sur la conférence suivante, mais quelle est la situation à la fin de la décennie 2010 pour la France? Obama est un peu mou sur le nucléaire. Il a fait des déclarations « allons vers le zéro nucléaire », etc., auxquelles les Américains n'ont pas donné le début d'une exécution, parce que, faut savoir que pour eux, on désarme, c'est vous désarmez, et nous, on met simplement les nôtres sous clé au chaud. C'est tout, hein. Pour les Américains, c'est comme ça. On attaque souvent les Russes ou les Chinois, etc., mais chacun fait comme il veut. Voilà comment on faisait. Donc Obama, dans la doctrine, disait finalement « le nucléaire ». Il y a eu le terrorisme, il y a eu Ben Laden, il y a tout ça, c'est peut-être moins important. Les Allemands ne peuvent pas supporter qu'on ait une arme nucléaire. Donc ils veulent nous virer du nucléaire. Alors tout ça, je fais peut-être les Allemands dans la salle, c'est très poli, c'est jamais écrit, etc. Et les Anglais, leur armement nucléaire est américain. Donc eux, ils n'ont ni besoin de démontrer que leur missile Trident marche, ni que leur tête marche. Ils ont juste à construire des bons sous-marins. Donc, sur les affaires nucléaires, nous, on s'est dit, on va se retrouver en 2030 avec, si Obama, la tendance Obama continue, heureusement il y a eu Trump, hein, parfois il faut. Si la tendance, moi je dis heureusement, hein, mais dans mon domaine, si la tendance Obama continue, les Américains vont être, un peu soft, les Anglais vont être en dessous de la ligne de flottaison, et les Allemands qui nous dominent maintenant dans tous les domaines vont nous mettre la pression. Et les autres Européens vont couiner comme les Allemands en disant « Les Français, ça suffit, avec votre arme nucléaire, ça ne sert à rien, dépensez de l'argent, vous êtes menaçants, etc. » Et donc, on a proposé aux Anglais de mettre en commun un certain nombre de nos connaissances. Alors, je pense que j'y reviendrai plus tard. Simplement, partant du constat suivant que l'on soupçonnait, mais qui a été avéré, c'est qu'ils avaient, là où on avait 100 de connaissances, ils avaient 2. Voilà. Et quand ils ont dû ouvrir leur laboratoire, leurs instituts, etc., ce que nos propres sous-mariniers savaient par cœur, mais on ne l'avait jamais démontré, la reine a été toute nulle. Mais c'était notre intérêt, donc on leur a donné beaucoup de choses, on en reparlera. Et comme entre-temps Cameron a fait prendre une décision sur la prolongation du nucléaire, etc., on a été sauvés. Donc parfois nos dirigeants ont des idées à long terme, on ne parle pas pour le grand public, mais qui sont, à mon avis, bonnes pour la sécurité de la France. Voilà pour ce traité de Lancaster, qui roule. Et on a fait des exercices et des conjoints avec les Anglais, mais on sait faire. Donc les Anglais, c'est le seul pays depuis 20 ans où on a une liaison entre les centres opérationnels de Paris et de Norfolk. Tous les jours, chiffrés, on se parle, qu'est-ce que vous faites, comment vous allez, quels sont vos moyens, est-ce qu'on peut vous aider, etc., etc. En vert, toujours à gauche, c'est la Croatie, qui a été le dernier pays de l'Union européenne, 28, et en rouge, les Américains ont décidé de faire entrer le Monténégro. Voilà. Donc, le bilan de cette construction européenne, dans laquelle j'ai mélangé en gros en bleu ce qui ressortissait à la défense, en vert à l'Europe avec pas trop de défense et en rouge l'OTAN, c'est un bilan évidemment contrasté, cas un quart, où ce que je vous ai dit tout à fait au début, on est 28, on sera bientôt 27 quand les Anglais ne seront plus là, moins nous 26, il y a 25 pays qui attendent que leur sécurité soit faite par les Américains et obéissent aux Américains. Normal, c'est les plus forts. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est les plus puissants. Pour vous donner une idée de la puissance militaire américaine, je vous donne deux exemples. Comme il y a un général de l'armée de terre, je ne prendrai pas d'exemple de l'armée de terre. Je vais prendre un exemple de l'aviation et un exemple de la marine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un contrat de ravitailleur pour l'US Air Force où Boeing et Airbus étaient en compétition, qui a été finalement alloué aux Américains, on s'y attendait, mais enfin, il fallait faire la démarche jusqu'au bout. Il y a eu des tas de raisons. Je vous donne simplement les chiffres. Les deux pays en Europe qui ont le plus d'avions ravitailleurs dans leur armée de l'air, ravitailleurs et multirôles, c'est-à-dire on peut transporter des passagers, du ravitaillement, des passagers, du cargo et du ravitaillement, c'est les Anglais et les Français. On en a 14. L'US Air Force a 500 ravitailleurs et 500 transporteurs. Voilà. Alors pour la marine, c'est simple. Un porte-avions, ils en ont 12. Chaque porte-avions, c'est deux fois le contrat de l'armée de l'air française dans la loi de programmation militaire. Il y a 85 avions, 400 pilotes, 6000 personnes. Ils en ont 12, et l'aéronavale américaine n'est qu'une petite partie de la puissance aérienne américaine dont les avions de combat, les F-16, F-18, F-22, F-35, maintenant, se comptent par centaines. Donc, on voit bien que quand les Américains disent quelque chose, on vous protège, les petits pays disent oui, c'est évident. Contrepartie, ils achètent américains. Et ils font ce que les Américains leur disent de faire. Ça, c'est normal. C'est un rapport de force. Et qui m'amène à ce bilan, qui va conclure cette première partie. L'OTAN, un élargissement politique vers l'Est, à 28, que je baptise de continu et inutile, parce que je ne vois pas très bien, moi personnellement, je ne vois pas très bien l'intérêt d'avoir pris les pays baltes dans l'OTAN. Tout le monde sait que s'ils avaient été envahis, ce qui à mon avis c'est pas ce que voulait faire Poutine, s'ils avaient été envahis, on serait arrivé comme la cavalerie dans le Kiluk, comme par le passé. Mais ça permet aux Américains d'être aux frontières de la Russie, donc ça énerve un peu Poutine. Et puis on a actuellement la question de la Turquie, qui est un des membres de l'OTAN depuis 1952. Dont Erdogan est en train de partir très vite, et il part très vite et il l'applique, c'est-à-dire qu'il a considéré que les officiers turcs qui étaient dans l'OTAN étaient des traîtres. Soit ils rentrent, ils partent en tôle, soit ils rentrent pas, et c'est leur famille qui supporte les frais. Là, vraiment, on est devant un dilemme. Alors, tant que la Turquie, c'était le rempart contre l'Union soviétique, le rempart de l'OTAN et de il servait aux Américains, Mais ça fait 15 ans que la Turquie nous joue des tours, et je pense que ça va être un des problèmes pour l'OTAN. Sachant que pour l'Europe, je crois que les Turcs ont compris qu'ils n'étaient pas dans le continent européen. Alors, donc voilà la présentation d'une façon différente. À gauche, la partie strictement militaire, Dunkerque-UO. En vert, la partie civile qui maintenant se teinte un peu de militaire, on y verra. Et en rouge, l'OTAN. Alors, je saute sur toutes les étapes intermédiaires pour faire un peu le bilan de ce que on a maintenant en 2018. Alors moi, comme je suis optimiste, c'est plus que j'ai été payé pour défendre l'Europe de la défense un peu partout pendant des années, je considère que le verre est à moitié plein. On a quand même signé des traités, surtout celui de Lisbonne, qui essaie de structurer une politique de sécurité et de défense commune. Et on a, dans le même temps, une gouvernance impossible à 28, j'ai mis 27 parce que les Anglais ont dit qu'ils partiraient, dont 22 sont dans l'OTAN. Or, dans l'OTAN, je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on est à Bruxelles, c'est l'Américain qui parle en dernier et qui emporte la décision, donc la décision est prise à l'unanimité, sauf si la France s'y oppose, ce qui arrive quelquefois. Et à l'Union européenne, les petits ont la même voix que les grands. Les petits peuvent tout bloquer, les grands, c'est pour ça qu'on essaie de faire des petits caucus, etc., à deux, à trois, de repartir à deux ou trois. Et la première Europe du traité de Rome, à six pays, avec l'Allemagne, était de ce côté assez cohérente. Alors qu'est-ce que c'est que la politique de sécurité et de défense commune? Un bref rappel. Quand on a décidé, alors là je remonte à la fin des années 90, après la chute du mur, on a constaté qu'on avait l'OTAN et que l'Europe avait envie un petit peu de se préoccuper d'affaires de défense. Donc, on s'est dit, on va laisser les combats majeurs à l'OTAN et, j'allais dire, la super police à l'Union européenne. Sachant que à l'Union européenne, il y a de l'argent et on peut faire... On a tous les ingrédients pour régler des situations de crise, parce que vous savez que la partie militaire n'est qu'un des éléments. Il faut une partie administrative, l'état de droit, enfin bref, le budget, etc., etc. Et on va prendre des missions. Alors pourquoi Petersberg, à Bonn, c'est la colline là qui était là, où se sont réunis les premiers qui en ont parlé. Alors on a quand même fait pas mal d'opérations depuis 1991. Une trentaine, moi j'en ai mis que 21 là. Ouais, on a fait une trentaine au total. Et puis on a fait de nombreuses tentatives pour promouvoir des équipements en coopération. Et on a eu des initiatives opérationnelles qui marchent. Alors, ce que j'ai sur les opérations, voilà. Voilà les opérations actuelles. Vous voyez que il y a pas mal d'opérations militaires, civiles, et qui concernent pas mal de pays. Alors, c'est pour Europe, et puis après, c'est une abréviation en anglais. Je ne connais pas toutes. TM, c'est Training Mission. ECAP, c'est Capability, c'est-à-dire on essaie de renforcer les capacités militaires. COPS, c'est la politique, la justice, la police. Tout ce qui est militaire pur, c'est fort comme force. M, c'est Military Monitoring. C'est... Voilà. Donc on a pas mal de missions, bon an, mal an, qui... Avec votre argent, essayez de résoudre, notre argent comme ceux des Européens, essayez de résoudre la crise. On a eu de nombreuses tentatives pour promouvoir des équipements en coopération. Alors ça marche plus ou moins bien. C'est un peu trop long de vous parler de l'Agence européenne de défense et de toutes les initiatives, mais en gros, là on touche le domaine de l'industrie de défense, et c'est un domaine où, j'allais dire, il est assez difficile pour les pays de se séparer de leurs industries de défense. Soit qu'ils aient, comme les Suédois, une réelle expertise, parce que c'est un pays guerrier qui a toujours construit ses équipements militaires, soit qu'ils n'aient pas du tout envie d'acheter français alors que les Américains leur demandent d'acheter américain, soit qu'ils cherchent, en faisant des coopérations, à acquérir des compétences qu'ils n'ont pas. En gros, c'est comme une équipe de foot, c'est moins qu'une équipe de rugby. Quand on demande à plusieurs pays de faire une coopération militaire, disons qu'il y a le capitaine d'équipe, il est français ou allemand, on va dire français, et puis on va se prendre un ou deux partenaires majeurs qui sont à peu près à égalité, et les autres arrivent en mettant leur chèvre, en pensant que s'ils jouent au foot avec les grands, ils progresseront. C'est le cas des Italiens, qui sont devenus très bons par ce biais, et qui sont tout à fait des challengers. Les Italiens, c'est un problème d'organisation, sinon ils sont toujours très très bons. Et donc ils viennent avec un arrière-droit qui est complètement nul, mais qui, au fil des matchs, apprend. Voilà. Puis une fois qu'il a bien appris, il repart former son équipe chez lui. Comme ça que ça se passe dans l'industrie de défense. Alors, le point important à savoir, c'est que fin 2017, les Européens qui tournent autour du pot depuis 20 ans se sont dit... On va faire des coopérations structurées permanentes, PESCO en anglais, permanente structure coopération, et de façon à ce que les pays se mettent vraiment autour de la table. Ça fait de faire la 14e fois qu'on dit qu'on va se mettre vraiment autour de la table pour faire quelque chose. Mais là, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis tous les épisodes précédents, mais voilà. L'idée étant que tout le monde accepte, on va se mettre à deux ou trois, et puis après on agrège ceux qui viennent. Tout le monde est d'accord. Donc on est reparti, et hier... La ministre Ursula et notre ministre Parly, donc l'Allemande et les Français, se sont mis d'accord pour travailler sur l'avion futur, ce qu'on appelle le système de combat aérien futur, etc., etc. Ça marche quand il y a deux, trois pays, ça ne marche pas quand on est ensemble. Mais après tout, pourquoi pas? Tout ça, ce n'est pas complètement nul. Il y a également des initiatives opérationnelles qui marchent. Je vous citerai le transport aérien européen. C'est parti entre les Français et les Allemands en Bosnie. Les Allemands étaient déployés en Bosnie, ils avaient des troupes à relever. Nous aussi, on avait un avion de transport qui était le Transall, qui est l'abréviation de Transport Alliance d'ailleurs, en franco-allemande. Et on s'est aperçu que les uns descendaient à vide pour revenir à plein et que les autres descendaient à plein pour revenir à vide. Enfin, un truc tout bête d'arithmétique de CM1. Donc on s'est mis, français et allemand, à se dire, bon, on va faire une bourse des matchs, et on va mettre sur le même tableau nos avions qui partent à vide et nos avions qui reviennent à vide, de façon à ce que ce ne soit pas idiot. Donc on l'a fait, ça marche très bien. Et en 91, 92, 93, et puis on est arrivé à créer un transport aérien européen sur une mission de transport, qui est une mission logistique, où il n'y a pas de... On ne met pas en jeu la souveraineté nationale, etc. Et ce transport, il est à Eindhoven, oui, pardon. Il y a eu un général français, peut-être un général allemand. Les Anglais ont totalement refusé d'y participer, as usual. On ne mélange pas leurs billes avec les autres. Surtout que si on leur dit qu'il y a des... Les Anglais, ils ont deux, trois trucs qui les font hurler de rire. C'est-à-dire, on avait fait une frégate franco-britannique, Horizon. Et le jour où on leur a dit les Italiens, finalement, ils ne sont pas mourus, ils vont venir avec nous, ils ont claqué la porte et on ne travaille pas avec les Italiens. Donc ils sont partis de leur côté. Voilà. Et puis les Italiens ont piqué nos connaissances sur la frégate Horizon. Alors, ce que je voulais montrer après. Quand je dis que le verre est à moitié plein, même si à l'occasion je vous dis de ci, de là, je vous donne de ci, de là des petites données montrant que tout n'est pas comme un long fleuve tranquille. Voilà les domaines du traité de Lisbonne de 2009 pour lesquels il y a eu réellement des avancées, surtout dans le domaine qui ne concerne pas les moyens d'intervention, il y a le strictement militaire, mais le domaine diplomatico-militaire. Donc, voilà, il y a je ne sais plus combien, 100 ou 130 missions, points de contact dans le monde entier pour l'Union européenne. Il y a une politique européenne de voisinage, bon, où on met de l'argent. Hein. C'est ça, c'est les trucs où on met de l'argent. des partenariats, etc. Donc ça avance, bon an, mal an, les gens prennent l'habitude de travailler ensemble, etc., etc. Nos hommes politiques qui n'ont jamais cru à l'Europe n'ont jamais mis de gens très, très, je veux dire, percutants dans ces institutions. Et quand on recule, parce qu'on parle de l'Europe de la défense, c'est constitutif de l'Europe, ceux qui ont pensé à l'euro et qui l'ont fait, j'allais dire, dans l'indifférence de leurs concitoyens, que ce soit en France et en Allemagne, ils avaient quand même une vue à long terme. Voilà. Et si on a l'euro depuis 2002, ça avait commencé 20 ans auparavant, et je doute qu'à l'époque, je ne sais pas qui c'était, Giscard et Schmitt peut-être, et consulté leurs concitoyens là-dessus. Il y a eu l'idée de compte commune, etc. Et les missions. Voilà donc, un bref résumé historique de la construction européenne, de l'Europe de la défense et de la façon dont les pays voient cette Europe de la défense. Je vous le rappelle, dans l'Europe de la défense, des Anglais qui sont contre toute construction européenne qui obérerait leur liberté de manœuvre et qui sont inféodés aux Américains, des Français qui n'ont pas du tout envie, mais pour qui, globalement, c'est bien d'être européen et qui voudraient bien que les autres arrivent pour les aider, parce qu'actuellement, on est le pays qui intervient le plus pour tout le monde. Des Européens qui n'ont jamais voulu payer pour la défense, il n'y a rien dans les traités de l'Union européenne sur la défense. C'est-à-dire, on a commencé à faire des petits budgets, mais bien sûr, ça rentre dans la dette. Il n'y a aucune disposition facilitant, disons, l'acquisition des biens de défense. Des Européens qui sont partagés, vous voyez dans la colonne de droite en jaune, les pays européens qui sont en dehors de l'OTAN, bon, les quatre pays indépendants, enfin neutres, plus Chypre et Malte, vous avez ceux qui sont dans l'OTAN mais qui n'ont pas du tout envie d'être dans l'Union européenne, l'Islande et la Norvège. Je ne vous ai pas cité le cas du Danemark. Le cas du Danemark est intéressant, c'est un membre fondateur de la communauté économique européenne et de l'Union européenne, mais qui a des dérogations en matière de défense, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout lié par les décisions de l'Union européenne quant à la défense. Donc on a ce paysage qui est quand même un petit peu compliqué à gérer quand on veut gérer la sécurité de notre continent. L'industrie de défense, je vous avais dit que... Oui, j'ai encore un peu de temps. Je vous avais dit que je vous en parlerai. C'est une industrie... un bon chiffre d'affaires. La défense, vous savez qu'on a plus de soldats dans l'Union européenne que les Américains. Hein. Si on additionne les... Je dis les unités d'infanterie, le terme est mauvais, mais les soldats de l'armée de terre de l'ensemble des 28 pays européens, ça dépasse largement le nombre des forces armées américaines, bien sûr. Et elles n'ont pas un dixième de la capacité des forces américaines. Hein. Parce qu'on n'est pas groupés, on n'est pas entraînés de la même façon. On n'a pas envie de travailler ensemble, on n'a pas envie de faire les opérations ensemble. Il y a eu des initiatives, je vous ai cité à la volée tout à l'heure l'Agence européenne de défense. On s'est dit, puisqu'on ne se met pas d'accord pour construire des porte-avions en commun, des sous-marins en commun, des avions en commun, faisons au moins de la recherche ensemble, parce que ça, c'est bien la recherche, en plus c'est dual, etc. Et on a mis Pinot dans l'institution, dont le premier directeur général était un Anglais, bien sûr, de façon à ce que l'affaire ne démarre pas très vite. Et bien sûr, c'est quelques millions qu'on est arrivé à grappiller, avec pas beaucoup de succès, puisqu'on était obligé de répartir dans des recherches qui ne sont pas toujours appliquées, ce budget. Mais finalement, pour 2018 et 2020, on a prévu de monter un tout petit peu. Alors ces chiffres, ils ne vous disent rien. Le budget de la défense en France, c'est 33 milliards, en Angleterre, c'est 37. En Allemagne, c'est 33,5 et aux États-Unis, c'est 700 milliards de dollars. Voilà. Donc 900 millions ou 500 millions, c'est quand même pas grand-chose quand on prend les budgets de défense. Et les autres pays ayant quand même des budgets qui leur permettraient de financer davantage. Et puis, je vous ai parlé de consolidation d'Europe, d'industrie européenne. Eh bien, elles sont encore à venir. Et c'est très intéressant parce que prenez un pays comme la France qui a négligé la part de la production de l'industrie. La production manufacturière dans sa richesse, elle est passée de 25% à 12% en quelques années, puisqu'on a développé les services, on a négligé l'industrie, alors que les Allemands ont toujours 23% de la richesse qui provient de leur industrie. Le décalage, il est là. Hein. Donc, nous, chaque fois qu'on touche à notre industrie, on est toujours d'accord pour acheter chez les autres, mais dès qu'ils veulent acheter chez nous, hein, on monte, hein, les Montebourg et autres, ça y est, c'est les Schleux qui reviennent, ou c'est les Rital, enfin, les mots les plus impolis arrivent dans la bouche de nos politiques. Pourquoi ? Parce qu'on a négligé l'industrie au sens large. Pas trop l'industrie de défense, mais l'industrie au sens large. Mais dans la mentalité de nos inspecteurs des finances, l'industrie, c'est quelque chose qui est long, qui emploie du monde, donc des emmerdes à venir, alors que les services, les assurances, la banque, etc., tout ça c'est beaucoup plus profitable, comme l'on dit. Alors on n'arrive pas très bien à se consolider. Terre, on va peut-être commencer à faire avec les Allemands un char en commun. Mais pour ça, en gros, quand on fait un accord, le tout petit est toujours d'accord pour faire l'accord. Le gros, si c'est pour manger un petit, il est d'accord. Mais si les deux sont à peu près équivalents, il se regarde en chien de faïence jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui crève. Voilà. Donc c'est en gros comme ça que ça se passe. Donc on vient simplement de faire un premier accord avec les Allemands en vue de construire un char commun, parce qu'un char, je veux dire, autant sur un avion, on peut avoir la question de la polyvalence, est-ce que cet avion fait de la défense aérienne ou est-ce qu'il va bombarder, etc. Autant sur un char, que, bon, il y a un terrain limité, il y a l'action, il faut un canon, il faut que ça roule, il faut que ça puisse communiquer, il faut que ça soit blindé, il faut que ça dépense pas trop, etc. etc. C'est assez simple à concevoir et à se mettre d'accord sur un produit à peu près commun. Donc on va y arriver. Et vous voyez, on a commencé quand même il y a 30 ans. Hein. Mer, c'est pas grand-chose avec les autres. On a essayé avec les Anglais plusieurs fois. Et puis au dernier moment, les Anglais nous disent non. Et les Américains arrivent par derrière. Alors les Anglais, ils ont par rapport à nous une attitude pour leur industrie de défense qui est très très différente. C'est que ils sont capables de prendre des décisions à la hache et de revenir dessus après. Ils n'ont pas d'état d'âme là-dessus. Nous, il faut qu'on fasse un devoir complet, 20 sur 20 au devoir, qu'on ait étudié, qu'on ait posé des questions à tout le monde, etc. Et on ne décide jamais rien. Alors, ça a des inconvénients. Les Anglais ont été incapables de construire leur nouveau sous-marin nucléaire d'attaque. Parce que, après Thatcher, leur industrie navale, de construction navale militaire a chuté, parce qu'elle a viré tout le monde, et donc ils se sont retrouvés avec une... C'est pas une activité à flux, c'est une activité à pic, hein, s'il y a des industriels parmi vous. Donc il y a des moments où il n'y a plus rien à faire, donc il faut garder le minimum de personnes pour pouvoir repartir. Donc ils avaient coupé tout ça, et quand ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas capables de faire leur sous-marin nucléaire d'attaque, une série qui s'appelle Astute, les derniers qui rentrent en service, ils ont appelé au secours les Américains, qui ont envoyé directeur de programme et 120 ingénieurs. Hein, voilà. Ils ont des liens particuliers, ils les paient très cher politiquement, mais ils s'en tirent. Nous, c'est hors de question qu'on fasse ça, parce que personne ne viendra nous aider. Hein. Donc, on ne peut pas faire d'alliance avec les Britanniques. Alors, on fait sur les missiles, etc. Et sur les bateaux, c'est un peu compliqué. Il y a l'exemple des avions de combat. Actuellement, il y a plusieurs grands types d'avions de combat en service dans les pays européens. Bon, il y a le Rafale pour les Français. Et puis, il y a l'Eurofighter pour 4 pays, Angleterre, Allemagne, Italie, et puis je ne sais plus quel est le dernier, qui n'ont jamais réussi à s'entendre pour des raisons de définition à l'origine. Parce que, voilà. Nous, en général, on est sur des produits très polyvalents. Alors, pour les avions de combat, c'est capable de faire de la défense aérienne et du bombardement. Et chez les Américains, comme on ne fait pas les deux à la fois, ils ont 5000 avions de défense aérienne et 5000 de bombardement. Donc, quant à l'OTAN, on a fallu renouveler les avions de défense aérienne. Le consortium Panavia, avec les Anglais, les Allemands, les Italiens, et puis un quatrième, qui est, je crois, l'Espagne, ont décidé de faire un nouvel avion de chasse, de défense aérienne, sur ces bases. Donc l'Eurofighter est incapable de transporter des missiles de croisière et de faire du bombardement, alors que nous, on est parti avec Dassault pour faire un avion totalement polyvalent, qui fait bien aussi de la défense que du bombardement. Voilà. Et tant qu'on est dans ces configurations, c'est impossible de s'arranger. Surtout que Dassault n'est pas prêteur, que British Aerospace, qui est l'anglais, c'est le seul qui ait gardé une capacité d'industrie aéronautique de bon niveau, mais faisant 30% de son business aux États-Unis, n'a pas du tout envie de fâcher les Américains, et que les Anglais, les Allemands, les avaient un peu noyés au sein de ADS, de façon à ce qu'ils ne reconstituent pas une industrie air de combat très forte. Messer Schmitt est dans Airbus. Hein. Je le rappelle pour ceux qui ont des trucs historiques. Alors bien sûr, l'espace, l'ingénierie, le cyber, on pourrait y revenir si vous posez des questions. Mais je me demande si je n'ai pas fait une conférence sur les industries aéronautiques et spatiales ici.
Si.
Voilà. Vous l'avez oublié. Je m'en doutais. Bon, et un dernier point. Je m'excuse d'être très, très rapide, mais... Vous m'avez proposé un sujet qui est tellement vaste. Le dernier point, c'est le Brexit. Le Brexit, vous retrouverez des étapes que j'ai déjà indiquées. Moi, je n'en parle pas pour la pêche ou pour le commerce ou pour la place financière, j'en parle simplement au plan militaire. Le Brexit ne changera rien à rien dans la relation que les Français ont avec les Anglais et dans la façon dont les Anglais vont ou non participer aux opérations. Ils vont se retrouver... Toutes choses étant égales par ailleurs, dans la position de la France qui pendant 33 ans, 43 ans a été en dehors de l'organisation militaire intégrée, de l'OTAN, mais qui a participé dès la première minute à toutes les opérations de l'OTAN qui ont été déclenchées sans que ça pose aucun problème technique entre militaires. Voilà. Donc pour le Brexit, ça va être la même chose. Je vous ai cité quelques étapes. Ah oui, là j'ai mis Suez. Bon. Entente cordiale, ah oui, entente cordiale, c'est le choix définitif des Anglais de ne pas faire l'entente avec leurs cousins de la reine, de faire passer leurs intérêts avant la famille, et contre les Allemands d'aider les Français. Dunkerque, j'en ai parlé, Suez, Saint-Malo, Lancaster House et la situation intérieure. Donc il n'y aura rien, à mon avis, il n'y aura rien. On continue de s'entraîner avec les Anglais, on continue de faire des opérations, de savoir faire des opérations avec les Anglais. On continue d'avoir des échanges, bien sûr, des échanges opérationnels, et j'allais dire au plan militaire, quoi qu'on dise, les Français, les Anglais, machin, une grande confiance. Il n'y a aucun problème avec les Britanniques. Quand je vous ai dit qu'actuellement les Britanniques sont un peu en difficulté, c'est que par rapport à nous, ils n'ont jamais arrêté. Ils étaient en Malaisie quand on était en Indochine, etc. Donc ils n'ont jamais arrêté, les Anglais. Et en plus, par rapport à nous, ils ont en moins le Sahel, mais en plus la deuxième guerre d'Irak. La deuxième guerre d'Irak, c'était une grosse division avec deux grosses brigades et une demi-brigade logistique, plus des avions, plus tout le train de bateaux. Et ça les a un peu épongés. Mais au jour où je vous parle, ça vous fera sourire peut-être, sur les frégates britanniques de Sa Majesté, nous avons 6 officiers mariniers, c'est-à-dire des équivalents adjudants-chefs-majors, sur les bateaux, parce que les Anglais ont appelé au secours, ils n'avaient plus personne, en particulier dans la gestion des systèmes de systèmes. Ils n'ont plus personne. Voilà. Donc ils vont remonter la pente, hein. C'est un grand pays. Hein. Mais pour le moment, je donne cet exemple, parce que c'est un exemple de marin que je connais bien, et ils en demandent sans arrêt. Parce qu'ils sont vraiment... Alors nous, on les aide, hein, mais nous aussi, on est quand même un petit peu fauchés. Alors voilà, sur le Brexit, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, parce que là, forcément, pour ne pas tenir plus de 50 minutes, j'ai réduit mon propos. Alors, pour vous permettre je vous propose cette sourate, si vous arrivez à la lire, elle est en anglais, et elle ne doit pas être récente, mais elle décrit bien la façon dont ça se passe. Paradis européen, vous êtes invité à un déjeuner officiel, vous êtes accueilli par un Anglais, la nourriture est préparée par un Français, Un Italien met l'ambiance et tout est organisé par un Allemand. L'enfer européen, vous êtes invité au même déjeuner, vous êtes accueilli par le Français, nourriture préparée par l'Anglais. L'Allemand met l'ambiance, mais ne vous inquiétez pas, tout est organisé par un Italien. Ce genre de blague, c'est ce qui se fait et au sein de l'OTAN et au sein de l'Union européenne, parce que les gens sont assez critiques envers eux-mêmes. Hein. J'ai le même sur l'OTAN avec des petits dessins, mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors, l'Anglais dit que ce joke était délicieux. Le Français protestait parce que la France était décrite d'une mauvaise manière. Il a expliqué qu'un joke ne peut pas être intéressant s'il est contre la France. Le Polonais a protesté parce qu'il n'était pas décrit dans le joke. Le Luxembourgeois demandait qui aurait le copyright du joke. Le Suédois a dit rien, mais faisait un sourire coincé à tout le monde. Le Danois a demandé où était la référence sexuelle explicite. Et si c'est un joke, parce qu'il devait y en avoir un, n'est-ce pas ? L'Espagnol a expliqué que le joke est marrant simplement si vous savez que le lunch était à 13h, ce qui est normalement l'heure du petit déjeuner. Le Grec se plaignait qu'il n'était pas au courant du lunch et qu'ils ont perdu une occasion d'avoir de la nourriture gratos. Le Roumain demandait ce qu'était un lunch. Le Lettonien, se plaignait des traductions. Le Slovène dit qu'il avait été complètement oublié. Je passe. Le British dit que s'il y avait le canard et le plombier, l'histoire ça aurait été aussi très drôle. Le Hongrois n'avait pas fini de lire les 1200 pages de sa propre traduction. Le Belge a demandé si le Belge qui avait proposé le joke était un flamand Dutch speaking ou un French speaking, parce que dans un cas il approuverait, dans l'autre il désapprouverait. Et enfin l'Allemand a annoncé que c'était intéressant d'avoir le débat ici à Bruxelles, mais maintenant il fallait aller à Strasbourg pour prendre la décision. Et il a demandé à tout le monde de réveiller l'Italien pour pas qu'il manque le train. Pour ça, il pourrait revenir à Bruxelles et annoncer que la décision serait prise. Et finalement, l'Irlandais a demandé quelle décision, et la réponse était « time for coffee ». Voilà. Non, mais c'est une blague, mais voilà comment les Européens se voient entre eux. Et ça, enfin, moi, dans mon petit domaine qui est celui de la défense, c'est exactement ça. Hein. Voilà. Et ça, c'est pas les gens de la défense qui l'ont fait. Alors, je reviens sur ma période de questions. Alors, j'ai été très incomplet, j'ai survolé, j'espère ne pas avoir été trop ésotérique dans des abréviations, et je suis prêt à répondre aux questions quand je connais la réponse.
Merci beaucoup, on applaudit Général Claude Duffy. Et donc, vous pouvez commencer à poser des questions, si vous en avez.
Ouais, c'est commencé par la deuxième.
Voilà, non mais c'est pour moi la deuxième. Je suis toujours le questionneur de secours. Ah, oui. Pas de questions ?
Si.
Oui.
Qu'est-ce qu'est devenue la codification OTAN ?
La codification OTAN ?
Pour laquelle la France avait le numéro 49. Alors, si vous avez des éléments.
Non, vous parlez des normes ou de la...
Non, de la codification. On a codifié tous les matériels de l'OTAN.
Oui. Oui, oui.
Descriptive pour chacun des matériels.
Oui, oui, d'accord. C'est celle qui fait foi. C'est celle qui fait foi.
Ça existe toujours.
Parce que c'est un travail de Romain de faire autre chose. Parce que c'est ça, et donc, en réalité, c'est comme ça que ça marche.
Oui.
Ben voilà.
C'est sans fil avec fil.
Oui, pendant longtemps, on considérait que la Turquie était le plus gros porte-avions américain en Europe.
Ouais.
Est-ce qu'actuellement, il y a autant de bases américaines en Turquie dans l'actualité qu'il y a 20 ans, par exemple?
Non, parce que les Américains ont été échaudés pour la deuxième guerre d'Irak, et celle à laquelle on a cru jusqu'au discours de Villepin qu'on allait participer. Moi, j'étais le major général des armées à l'époque, dans le numéro 2, et avec le chef d'état-major, on préparait notre intervention. Au dernier moment, le Parlement turc a interdit le survol des avions de combat américains et ont interdit le poser d'avions de combat dans leur base qui allait vers Incirlik. Voilà. Donc, et ça perdure. Donc les Américains ont été obligés de rafler les derniers bateaux qui restaient pour faire leur opération en Irak, et ils ont gardé les avions de transport. Donc les Turcs... Donc ça fait beaucoup réfléchir les Américains. Mais tant que leur intérêt, c'est de garder une Turquie dans l'OTAN qui fasse un peu tampon, je pense qu'ils s'assieront là-dessus. Mais elle n'a plus de vocation opérationnelle. Il faut se rappeler que quand on a réduit les états-majors de l'OTAN, au temps de la guerre froide, il y avait, je ne sais plus combien, 15 000 personnes. L'OTAN, c'est qu'un état-major, hein. Enfin, que des états-majors qui, dès le temps de paix, travaillent ensemble, de façon à ce que tous les pays alliés sachent faire la guerre sur un claquement de doigts. Donc ça marchait très bien. Et puis à la fin de la guerre froide, on a divisé par deux ou trois les états-majors. On a réduit les états-majors croupions qui étaient donnés à droite, à gauche, aux Portugais, aux trucs comme ça, pour qu'ils aient leur état-major, leur général ou leur amiral. Et on en a quand même créé deux importants en Turquie à cette époque. Un pour les opérations aériennes, et puis je pense que le Land Command, il y a un des Land Command qui doit être en Turquie aussi, un des commandements terrestres. Pour marquer le territoire, et puis à l'époque Erdogan n'était pas encore dans sa tendance actuelle. Voilà. Donc tant que les Américains sont intéressés, mais c'est le survol, c'est amusant, hein. Les pays ont des... Prenez l'Italie. L'Italie est un pays de l'OTAN qui a participé, comme les pays d'OTAN, aux opérations de l'OTAN au Kosovo. Je vais en parler du Kosovo. L'Italie nous a toujours interdit son survol par des avions armés, y compris pour faire une opération, etc. Bon, moi, bien sûr, commandant une force aéronavale, je trouvais que le porte-avions, il se déplace où il veut, et il bombarde où il veut, donc il n'a pas besoin de survoler. Mais vous pensez que l'Italie, notre allié et nos camarades de l'armée de l'air, il y avait quelques-uns qui étaient stationnés en Italie pendant cette campagne, mais les Italiens nous avaient dit, bon, il y a ceux qui viennent de très loin, comme les Pays-Bas, les Anglais, on leur donne la priorité, puis les Français, vous êtes tout prêts, vous démerdez. Donc les avions étaient basés à Solenzara, faisaient le tour de la botte pour aller bombarder. Et oui, sauf les quelques qui étaient à Tchervia. Bon, donc cette interdiction de survol, elle est de tout temps et de tous les temps. En 1986, quand les Américains ont bombardé la Libye avec des avions qui étaient basés en Angleterre, ils ont fait le tour de la France. Hein. Ils n'ont pas intérêt à survoler la France. Donc les Turcs ont fait la même chose. Maintenant, c'est beaucoup plus embêtant pour les Américains qui ont besoin de... Donc ils ont payé très cher pour que leurs avions de transport puissent se poser. Voilà. Mais les Turcs ne reviendront pas en arrière, parce que Poutine, qui est malin, a commencé à faire des accords avec les Turcs. Il équipe les Turcs de missiles anti-aériens et sol-sol ultra-modernes. Donc la situation, à mon avis, ne va pas s'améliorer. Elle ne va pas s'améliorer avec les Turcs et l'OTAN. Voilà, tout ce qu'on peut dire là-dessus. C'est comme ça. Oui ?
Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu nu avec un seul porte-avions ?
Ben, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire...
Et que va-t-on faire ? On en fait un deuxième ou c'est rien ?
Alors...
Tu donnes ta cotisation ?
Deux minutes, sur... comme vous savez, je suis un 5 commandant de porte-avions, donc j'ai forcément, comme j'ai commandé des opérations avec des porte-avions, je suis impartial parce que j'ai géré le budget des armées. Le porte-avions, pourquoi ça fait peur aux politiques? Tout le monde est d'accord, hein, quand je vous dis, voilà, on n'a pas besoin de base, on n'a pas besoin d'accord politique, on se déplace où on veut, quand on veut. Et le Charles de Gaulle, il fait à peu près les deux tiers de... L'aéronaval, c'est un quart de l'armée de l'air, hein, en capacité, toujours à peu près. Et donc, on est bien, c'est la seule armée qui compte en l'air, c'est l'armée de l'air, hein. L'aéronaval n'est qu'un complément. hauteur de 25%. Donc quand on explique aux gens qu'on n'a pas besoin de payer très cher, comme en Afghanistan, des bases, de déployer des gens pour la maintenance plus, etc., qu'il y a un prix politique à pouvoir décoller de Jordanie, que sur décision du président, on n'a aucune autorisation de survol à demander, sauf pour aller bombarder, à ce moment-là, on ne donne plus d'autorisation. Tout le monde comprend. Après les politiques, c'est une dépense 0,1. C'est-à-dire actuellement, ça doit être autour de 6 milliards, je pense, le porte-avions, c'est peut-être 7, bon, à peu près. Ça augmente un peu chaque année, mais tous les armements augmentent. Chaque année, on achète de façon nette à la défense 10 milliards, à peu près. On dépense 15 à 16 milliards pour ce qu'on appelle les dépenses d'investissement, mais dans lesquelles on fait rentrer les dépenses d'entretien, de remise à niveau. Donc on achète net sur le marché, enfin dans l'industrie, pour 10 milliards. Donc c'est à peu près 7 milliards. C'est le 14e programme d'armement du ministère de la Défense, 14e. Et tous les premiers programmes, c'est l'aéronautique. Le Rafale, on a déjà dépensé. Moi, je suis un fan du Rafale, donc on a déjà dépensé plus de 40 milliards. Sur la 400M, en surcoût par rapport, on a déjà dépensé un porte-avions. Et quand on achète, en gros, les avions ayant un système d'émission compliqué, ça coûte très cher, voilà, et puis quand on achète un paquet, ça coûte très cher. Mais quand le ministre signe Scorpion, je prends un exemple terrestre, Scorpion pour l'armée de terre, Scorpion, c'est le combat moderne avec liaison de données entre tous les équipements, de façon à ce que tout soit homogène et cohérent dans le combat terrestre entre les différentes capacités, les appuis, le génie, l'infanterie, la cavalerie et tout ça travaille de façon beaucoup plus homogène et on utilise au mieux les moyens. Le ministre Le Drian, il a signé un porte-avions et demi quand il a signé ça. Mais personne ne lui en a fait la remarque parce que ce programme qui s'appelle Scorpion, on peut le découper. Et puis on peut se dire, tiens, on va équiper une brigade, puis deux brigades, et pas les 7 brigades actuellement, on ne peut pas oublier 7 ou 8 brigades qu'on a. Donc, politiquement, il ne risque rien. Quand on équipe l'armée de terre de Félin, on part à 32 000 ou 35 000, et puis on n'a pas de quoi se les payer, donc pour vous tous, on doit être à 23 000 Félins, ou un truc comme ça, enfin, voilà. Quand on équipe l'armée de terre de PR4G, qui est un équipement qui est moderne, qui n'est pas ultra-moderne, mais qui est de nouvelle génération, de transmission. On dépense 2 porte-avions. Et l'équipement lui-même, il coûte 300 balles. Oh non, enfin, il coûte très, très peu. Donc le ministre signe 2 porte-avions. Donc qu'est-ce qui fait pétocher les politiques? C'est qu'ils doivent assumer que la dépense est 0,1. Qu'on n'achète pas un demi porte-avions. Voilà, c'est tout. Mais comment on le construit en 10 ans? Ça fait des annuités de 700 millions. Et 100 millions par rapport aux 10 milliards qu'on dépense chaque année, c'est... Bon, ça se supporte, hein, je veux dire, c'est pas... On met 3 milliards dans la dissuasion chaque année, hein, en plus. Donc c'est vraiment une décision qui montre un manque... Hein ? Alors, le besoin, c'est de savoir si vous avez besoin d'une capacité de combat aérienne, en gros, d'avions de combat. En gros, la réponse est plutôt oui. On a besoin de bateaux, on a besoin d'une armée de terre, on a besoin... Et comment vous l'utilisez? Sans contrainte politique, sans contrainte géographique, en autonomie et dans la durée. Chef, l'armée de l'air ne sait pas faire ça. Elle fait d'autres choses, hein. Elle ne sait pas faire ça. Donc si vous voulez un outil de projection capable d'aller bombarder, sans demander l'autorisation à personne, parce que quand on déploie nos rafales en Jordanie, ou aux Émirats arabes unis, quand on les déploie au Tadjikistan, moi j'ai négocié les bases, à l'époque j'étais chargé des affaires internationales pour l'Afghanistan. On était deux, moi j'étais affaires internationales, ce chef opération négociait aussi de son côté. Je suis allé en Ouzbékistan, à Tachkent, ils nous demandaient un prix colossal. On a dit on ne va pas payer tout ça pour pouvoir déposer 6 Mirage 2000. Alors finalement on est allé au Tadjikistan, on a refait la piste, le contrôle, et on a tout laissé bien sûr. Et ça a coûté la peau des fesses. Et les premiers qui ont bombardé en Afghanistan, c'est les super étendards du Charles de Gaulle. Alors quand vous expliquez ça, je peux vous en dire une demi-heure, j'ai une demi-heure d'exemple.
Il est convaincu.
Non, mais je veux dire, il n'y a pas. Alors après, non, mais c'est comme toujours. Après, vous dites,
est-ce que. Sur le plan international,
hein?
Il y international.
Alors non, mais après, il y a toute une dimension politique, etc. Vous savez, quand le Carl Vinson fait escalade d'Anang, le Carl Vinson escalade d'Anang, il y a 15 jours, il se trouve que nous étions au Vietnam juste après le passage du Carl Vinson. À Danang, c'est là où quand même les Américains sont arrivés en 65, et les Français à Touran en 1800 et quelques, c'est là qu'ils ont commencé à bombarder en Indochine. Enfin, ils revenaient pour la première fois en force. 6000 marins, plus les deux frégates qui accompagnaient, 8000 marins, 90 avions de combat, au Vietnam, à Danang. Quelle était la réaction de la population ? Les Américains viennent nous protéger contre les Chinois. Et donc ça n'a rien coûté à Trump. Mais il s'est mis un œil dans la poche. Alors après, ça durera ce que ça durera. Hein. C'est tout. Mais là, sur l'intérêt politique, vous me ferez revenir parler sur les porte-avions, là je vous tiens toute une après-midi. Donc après deuxièmement, c'est un outil qui ne se partage pas. Un outil de puissance qui ne se partage pas. On a essayé avec les Anglais, ça ne se partage pas.
Mais à propos des porte-avions, ah.
Est-ce qu'on aura encore les capacités industrielles et savoir-faire ?
C'est tout le challenge, parce que c'est tout le challenge. C'est pour ça que Naval Group conserve les Naval Group Technicatome. Enfin, sur les chaufferies, il faut garder une capacité.
Je pense aux chaufferies, oui.
Là, je suis plus confiant que dans la partie intégration des systèmes de systèmes. C'est beaucoup plus complexe. Porte-avions, c'est bien sûr l'outil militaire le plus complexe qu'on puisse imaginer au monde. Hein, une base aérienne, un dépôt de munitions, un dépôt de carburant, une centrale nucléaire, 2200 personnes en avion de combat, etc., en permanence. Enfin bref, 2000 locaux, c'est absolument incroyable. C'est plutôt la compétence d'intégration de systèmes qui est dure, sachant qu'on est les seuls en Europe, on est les seuls à part les Américains à savoir les faire, porte-avions en propulsion nucléaire, et que ça ne se vend pas. Voilà. Donc c'est une dépense d'investissement à long terme quand on garde des équipes. Et tout le savoir-faire de nos ingénieurs, c'est de rester au point mort bas. Ce n'est pas une activité à fluide, on n'en construit pas sans arrêt. Le point mort bas pour pouvoir remonter en puissance. Alors on a pris nos dispositions du côté des centrales et on essaie de prendre les dispositions. Et c'est pour ça qu'on veut avancer le plus tôt possible les études pour le porte-avions prochain. Voilà, tout.
Si j'ai bien compris, il y a quelques années en arrière, on imaginait en faire un avec les Anglais. Alors, après ce que vous avez dit, c'est...
Ça ne se partage pas.
Alors moi je peux vous dire, parce que à l'époque j'étais dans le numéro 2 des armées, je signais avec le délégué général pour l'armement le rapport sur la propulsion présenté au Premier ministre. Bon. Il se trouve que nous avions fait des études avec les Anglais. Les Anglais ont refusé la propulsion nucléaire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils étaient incapables techniquement de construire un bâtiment, un porte-avions à propulsion nucléaire.
On était là pour les aider.
Mais pourquoi un porte-avions nucléaire ?
Parce que ça se raille tous les 8 ans et pour les Américains, tous les 30 ans.
Mais il y a le reste du ravitaillement dans le porte-avions. Il n'y a pas que l'énergie.
Eh bien, vous fournissez tout. Ah bah oui, bien sûr, il faut nourrir. Bien sûr. Mais quand vous pouvez vous déplacer pendant les nôtres, c'est pendant 8 ans, les Américains, c'est pendant 15 ans et bientôt 40 ans, sans aller à la pompe. Demandez à un camarade de l'armée de terre s'il avait un char qui pouvait faire 10 000 km sans ravitailler.
Il va pas à la pompe, mais il va à l'épicerie. Quand même.
Il va à l'épicerie, hein, lui. C'est plus facile. C'est plus facile. Entre les congelés, les surgelés, les réfrigérés et les vivres de grande conservation, c'est beaucoup plus facile.
Et on peut larguer de la nourriture alors qu'on peut...
Non. Ça, on l'a déjà fait, non, on ne fait pas sur un bateau. Alors, je reviens aux Anglais. Alors, les Anglais nous ont dit, on ne pourra pas, comme on se déploie, on n'est pas comme les Américains qui en ont toujours en permanence, qui partent pendant 6 mois des États-Unis, qui font leur tour, mais qui sont relevés parce qu'ils sont assez nombreux. Nous, quand on se déploie, c'est longtemps, etc. Il faudra bien faire des escales de temps en temps, ne serait-ce que pour relever une partie de l'équipage ou peut-être racheter des salades ou je ne sais pas quoi. Et vous verrez, les bateaux à propulsion nucléaire, ils vont être interdits partout. Alors nous, les Français, qu'on est malins, on a regardé les endroits où on était susceptible d'aller, bien avant que Charles de Gaulle ne soit déployé, et on a fait des escales de bâtiments à propulsion nucléaire, je vais prendre Singapour, c'est plus facile, dans des endroits où on a créé l'antériorité, et donc quand Charles de Gaulle a demandé à aller à Singapour, l'autorité singapourienne avait déjà reçu des bâtiments français à propulsion nucléaire, on dit, il n'y a pas de problème de sécurité, on a déjà testé avec vous. Donc ça, c'est l'argument pipeau. Le vrai argument, c'est qu'ils avaient perdu leur capacité industrielle de faire des porte-avions à propulsion nucléaire. Alors après, les marins anglais voulaient, les Anglais ont tout inventé, hein, en général. Ils voulaient un porte-avions comme nous, avec catapultes, etc. Puis, pour des tas de raisons politiques, ils ont été obligés d'acheter l'avion américain du Marine Corps, pas de la marine américaine, du Marine Corps, qui n'est pas un avion à catapultes et brins d'arrêt. Voilà. Et après, l'emploi. Moi, je cite le Kosovo. Après, on aurait pu dire, c'est une opération de l'OTAN, on tourne. Hein, les Français sont là, et puis ils avaient des porte-aéronefs à l'époque, des avions, des tout petits porte-avions avec 9 hélicoptères et 6 arrières à bord, quand ils étaient pleins à craquer, mais après tout, pourquoi pas. Hein, et voilà. Simplement, à l'époque, ils voulaient aller accompagner les Américains bombardés en Irak, fin 98, et partir en Sierra Leone, il doit y avoir des mines d'or par là qui intéressent les banquiers britanniques. Ils n'étaient pas du tout intéressés par la campagne aérienne du Kosovo. En revanche, leur intérêt, c'est que ce soit un général anglais, Gerald Jackson, qui prenne le commandement des forces de l'OTAN dès qu'on aurait mis pied à terre. C'est tout. On a accepté, hein, c'est pas le problème. Hein. Donc on n'a aucun... Et puis ça ne se partage pas. D'ailleurs, vous imaginez le Queen Elizabeth sous les ordres d'un amiral français. Non, bon. Les Américains le font. On est la seule armée qui commande en opération des unités américaines, grâce au Charles de Gaulle.
Ah oui, j'avais
lu ici. Ouais, on est la seule armée, et le seul pays.
Ah bon.
Mais vous imaginez, moi 15 ans de moins, sur le Queen Elizabeth ? Rigolez, quoi.
Mais si ça ne se partage pas, pourquoi est-ce qu'on a même envisagé, même pendant une seconde, de pouvoir faire quelque chose avec les Anglais, en sachant qu'ils n'avaient plus aucune expérience, qu'ils n'avaient rien, qu'ils n'avaient rien à nous apporter ?
Parce que la politique nous dépasse, cher ami.
Ah, voilà.
Mais je peux vous dire, tiens, je vais vous donner juste la cour, puisque j'ai fait le malin en disant que c'est moi qui signais, effectivement, c'est moi qui signais la partie état-major des armées. Je peux vous dire comment ça s'est passé. Nous avions fait des études et conclu que la seule propulsion qui convenait, c'était la propulsion nucléaire. On avait fait le bilan opérationnel, il n'y a pas photo, en gros, hein, entre eux. Et puis donc, on avait rédigé notre truc avec Laurent Collet-Billon, pour ceux qui le connaissent. Et je pense que c'est la veille ou l'avant-veille au soir, on a reçu un coup de fil, on dit du château. En disant, vos conclusions sont bien, qu'on prend une propulsion classique pour travailler avec les Anglais. Voilà. Mais à l'époque, Chirac avait d'autres ambitions avec Blair, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Ça, ce n'est pas notre sujet. On revient à l'Europe, peut-être. Moi, je peux vous parler de porte-avions, ça arrive, mais on peut revenir alors. Oui.
J'aurais deux questions.
Oui.
Est-ce que vous pourriez comparer la puissance militaire européenne,
oui,
française, anglaise, par rapport à d'autres pays que les États-Unis ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est aussi fort que, aussi fort que les Russes ou pas, ou l'Inde ou pas ? Et puis, est-ce qu'il y a des tentatives de nouvelles alliances ou d'incorporation dans l'OTAN d'autres pays que les pays européens ?
Alors, première question, c'est toujours difficile de faire un palmarès. Actuellement, en dehors des Américains, dont je vous ai expliqué qu'il y avait un facteur 10 au moins dans les capacités, dans toutes les composantes par rapport à l'ensemble du monde, les deux armées qui sont cohérentes, c'est-à-dire avec un ensemble, capacité de commandement, force terrestre, force aérienne, force maritime, capacité cyber, capacité logistique, capacité de communication, c'est les Français et les Anglais. Et derrière nous, il n'y a personne en Europe. Voilà. Après, il y a la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Ces pays la Russie a mis à la casse tout sauf l'aéronautique et le nucléaire. Après la chute du mur. Donc, elle a une capacité de remonter en puissance réelle. Elle a des aéronautiques et espace et nucléaire. Elle a gardé ses capacités. Et ce serait suicidaire, parce qu'ils ont la masse, de vouloir les attaquer. Cela dit, s'ils venaient se frotter à nous, je veux dire, on pourrait leur faire très mal. Mais je rappelle qu'il y a la dissuasion, donc on ne se bat pas contre les Russes. Hein. Je le rappelle quand même, on ne fait pas ça. Donc on n'aime pas trop faire ce genre de choses, parce que, vous voyez, nos équipes là, L'armée française, elle a été dégraissée depuis la chute du mur, etc., machin chose, on n'a pas arrêté de couper les budgets, etc. Et le paradoxe, c'est une équipe super entraînée, mais il n'y a plus un réserviste sur le banc. Et il n'y a plus de maillot dans les vestiaires, et il n'y a plus qu'un ballon. Voilà. Alors actuellement, on est en tête du championnat. Voilà. S'il y a un maillot qui se déchire, on n'a plus de quoi équiper. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Alors après, l'Inde. L'Inde est en devenir. Et la Chine n'est pas une puissance dominante et dominatrice, mais qui n'est pas une puissance de projection. Elle est en train de faire avec le collier de perles, One Road, One Belt, etc. Voilà, de monter en puissance. Vous savez qu'en 4 ans, elle a construit autant en tonnage de bateaux que la marine française, en 4 ans, rien qu'en 4 ans, et que ces derniers garde-côtes font 12 000 tonnes. Alors 12 000 tonnes, c'est plus gros que les plus grosses frégates américaines. Garde-côte. Hein. Voilà. Donc je vois pas un combat. En plus, c'est toujours très prétentieux de se dire on est meilleur que. Voilà. Actuellement, palmarès d'aujourd'hui, en dehors des Américains, les French et les Brits. Capables d'aller à l'autre bout du monde, de porter le fer et de repartir. C'est tout. Il n'y aura pas plus. Mais ça ne va pas durer. Enfin, ça ne va pas durer si Bercy a la main, mais c'est pas dit.
La question que je voulais poser.
Ah oui, pardon, la deuxième question. Oui, pardon, excusez-moi. Vous avez une deuxième question, pardon.
Je me demandais si du coup il y avait des volontés, par exemple, de l'OTAN de faire des traités avec ces autres pays.
Non, l'OTAN ne fait pas de traités. Non, l'OTAN est une organisation politique qui a un outil militaire. Cette organisation politique est dirigée par les Américains et ils élargissent l'OTAN. L'OTAN ne fait pas de traité. Ils élargissent selon leur bon vouloir. Le jour où ils voudront inclure Israël, ils incluront Israël. Ils ont posé le fer encore.
Il n'y a pas de projet actuel.
Il y a le... Non, le dernier, c'est le Monténégro. Je pense que pour nous embêter en Europe, parce qu'ils aiment bien qu'on ait la plaie de corail, là, ils vont continuer avec le Kosovo, etc., et la Rime, l'ancienne République yougoslave de Macédonie, etc. Mais sur la frontière Est, pour le moment, sur l'Ukraine, ils font temps mort. Ils espéraient bien que l'Union européenne arriverait à agréger l'Ukraine, mais Poutine a vu le danger. Et donc, voilà. Mais l'OTAN ne fait pas traiter. L'OTAN, il y a l'ONU qui dit le droit dans le monde et qui dispose d'outils. Il y a les forces de l'ONU, d'opération de maintien de la paix, ça ne marche pas pour des tas de raisons. Je peux vous expliquer. L'OTAN fait partie des outils que l'ONU, auxquels l'ONU peut demander de mettre à disposition en tant que capacité militaire. Et puis, il a sa capacité propre, qui est défendre les pays. Je rappelle que l'OTAN ne défend que le territoire des pays signataires, hein, et que depuis la Bosnie, on est en dehors de pays de l'OTAN. Mais ça ne gêne personne. Bon, il y a des trucs comme ça. Pardon, oui. Excusez-moi.
Oui, dans le conflit de la Syrie à l'heure actuelle, et le comportement de la Turquie et de l'Iran et de la Russie qui intervient, comment se comporte l'Union européenne devant ce...
Bon, elle n'existe pas, l'Union européenne. Non, elle n'existe pas. Je vous ai dit qu'il y avait un service de l'action extérieure de l'Europe ou un truc comme ça, qui fait de la politique, mais qui actuellement, c'est une Italienne, Mogherini, là, qui est plutôt bonne, mais elle n'a aucun moyen. L'Europe n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? C'est que les pays européens qui la constituent n'ont pas envie, mènent des stratégies différentes dans cette zone. Tout le monde mène des stratégies différentes, et en particulier tout, entre guillemets, le camp occidental. Les Américains n'ont même pas la même stratégie que nous, on n'a pas la même que les Anglais, et parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Nous, il nous faut du pétrole. 100% de notre pétrole arrive par voie de mer tous les jours. On a décidé de ne pas explorer le gaz de schiste, on mégote sur le nucléaire et on fait les éoliennes. Là. Je suis venu de Paris ce matin, j'ai vu des champs d'éoliennes qui défigurent le Morvan. C'est fantastique, hein. Ça fait 1 pour 1000. Enfin, je ne sais pas combien de mégawatts fait une centrale, 4 ou 5 peut-être les dernières, là, même pas. Même pas. Oui, quand il y a du... Bon, voilà. Donc nous, il faut nos pétroles. Donc toute notre politique, c'est de d'avoir du pétrole. Alors on est prêt, bon, on a le Liban qui chatouille un peu nos égos, mais pas plus que ça, hein, par Chirac, il n'y a pas grand monde. Et les Américains, vous savez, l'accord Roosevelt avec le roi d'Arabie, l'Aramco, etc., même si MBS a nationalisé l'Aramco, enfin tout ça c'est du pipeau, les Américains pompent le pétrole chez les autres et soutiennent l'Arabie. Voilà, mordicus. Les Iraniens, les Américains ont dans leur projet un truc qui est assez aberrant, c'est de diviser l'Irak en trois, une zone kurde, une zone sunnite, une zone chiite. Bon, si on fait exploser au cri de les entités, c'est un peu la Catalogne, enfin, la puissance 100 000, voilà. Mais eux, ils n'ont pas de vision. Les Anglais et les Français, on a, parce qu'on est d'accord, Pico-Spike, etc., on sait un petit peu comment ça se passe. Et les Russes qui ont compris, qu'est-ce qu'il fait Poutine? Il revient sur le terrain, il revient en Méditerranée, sa flotte revient en Méditerranée. Et maintenant, il a des missiles de croisière efficaces. Et il a trouvé que dans la faille qu'il y avait entre les différents pays, particulièrement américains, anglais et français, il est revenu en force, donc il est devenu incontournable. Il a viré, les Français et Anglais sont virés du processus. Et les Américains, on ne sait pas ce que va faire Trump, qui est un petit peu. Voilà. Et du coup, la Turquie, s'allie avec la Russie, voilà, pour défendre ses propres intérêts. Donc on a peut-être manqué à virer, on a voulu faire les malins en disant qu'il faut virer Assad, etc. Il ne faut jamais faire ce genre de déclaration. Voilà. Sinon, jamais sortir de la tranchée. De toute façon, on pourra ramasser les choses quand elles arrivent. Voilà, c'est tout. Donc, on y est. Le tout, Macron a fait une petite erreur en disant aux Kurdes qu'on allait les aider, puis il a aussitôt rétro-pédalé, quoi. Parce que, aussitôt, voilà, on a des forces spéciales, on a des gens un peu partout pour aider, mais c'est tout. On ne va pas mettre des soldats à terre. Voilà, on a bombardé, et c'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas d'issue. Il faut attendre, quoi. Il y a assez de morts pour en avoir marre. Hein. Mais nous, tant qu'on n'a pas de pétrole, on est obligé d'aller sur les lieux. Rappelez-vous, si on avait du pétrole, on ne serait pas obligé d'y aller. Après, on est mon père, maman, qu'on sait.
Quand vous dites nous, c'est l'Europe. On peut le dire aussi comme ça. Oui, la France.
La France. Non, moi, je parle France et l'Europe. Moi, je ne parle pas de l'Europe.
La question
sur la France,
je réponds à la France. Vous avez répondu partiellement à la question que je voulais poser. C'est quel est l'ennemi? Puisqu'on parle des moyens de défense.
Oui.
Et quel est? Il est multiforme, protéiforme. Voilà. Donc.
Je vais vous répondre. Si dans un débat politique, vous parlez de politique sociale, vous pouvez avoir les tenants d'une politique sociale, entre guillemets, de gauche, dans l'ancien monde, ou d'une politique sociale de droite, d'une politique économique, de gauche ou de droite, d'une politique, etc. Politique de défense, il faut pouvoir se défendre. Voilà. Contre qui? On n'en sait rien, parce qu'on ne définit pas l'ennemi. C'est la différence. Quand on fait une politique sociale, on définit l'ennemi, le riche ou le pauvre. Enfin, je ne sais pas, c'est une caricature. Mais on ne définit pas l'ennemi. Donc, il ne faut pas être pris au dépourvu. Donc, il faut, actuellement, il y a un focus sur le terrorisme, on a gardé la dissuasion, on se dit qu'il faut pouvoir, on a 2 millions, on a 20 000 km de côte, 2 millions d'expats et 3 millions de nos compatriotes qui sont outre-mer. Voilà. Et on a des intérêts un peu partout pour récupérer de l'énergie, des minerais, qui nous sont nécessaires, etc. Bon, voilà, et qui peut s'attaquer à ça, voilà. Donc nous, on n'a pas d'ennemi, mais il faut pouvoir anticiper, faut anticiper ce que d'autres pourraient faire contre nous. D'accord. C'est tout. Voilà. Donc vous ne trouverez jamais la trace. On peut décrire les menaces, les risques, il y en a énormément. Les menaces, c'est quand les risques se transportent en danger plus ou moins imminent, et pas se tromper. Jusque-là, on ne s'est pas trop trompé. Quand on est intervenu en 2013 à Bamako, là, c'est l'armée de terre qui est concernée. Vous savez qu'on a toujours une brigade d'alerte, un général d'alerte, etc., etc. Ça faisait 2 ans que l'armée de terre préparait la brigade de l'actuel major général de l'armée de terre, la Barrera, à intervenir au Sahel dans les conditions, parce que nos services de renseignement avaient dit que ça allait chauffer là. Donc sa brigade et ses régiments étaient entraînés. Et donc quand le samedi matin, le vendredi, Hollande a dit on y va, le chef d'état-major lui a dit on peut y aller, le lendemain, le général était parti et on avait tout prévu. On avait délaissé toute intervention en Irak, toute intervention dans d'autres théâtres, hein. C'est un pari. Bon, là, on se trouve qu'on s'était, l'état-major des armées, s'était pas trop trompé. Mais on aurait pu se planter. Hein, voilà. On sait jamais où ça peut. Qui aurait imaginé le Timor, l'Afghanistan, Haïti, dans les flammes? Personne. Donc il faut être capable de répondre. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de menace. Mais il faut être capable d'accord. De reprendre celle qui va arriver.
Non, mais je m'attendais à la réponse. Mais
je... Non, mais je ne sais pas.
C'est mieux quand vous la dites.
Moi, c'est des vécus.
Alors, je rebondis. Hein. Vous avez cité le mot, mais vous n'avez pas développé là-dessus. Je crois que ça vaut le coup. La guerre cybernétique.
Alors,
est-ce qu'elle s'ajoute ou est-ce qu'elle se substitue à une partie des moyens de défense?
Non, c'est désormais la 4e ou 5e armée, je ne sais plus combien d'armées on a. Non, on est parti il y a 20 ans à peu près, sur le devant des attaques informatiques, sur un concept de lutte informatique défensive. Et on va se protéger parce que machin. Il se trouve qu'on a un pôle d'excellence qui est à Bruz, à côté de Rennes, qui est dans les mains de la Délégation Générale pour l'Armement, qui a développé des capacités. C'est elle qui bidouille tout le truc, voilà, pour tous les services et pour tout le monde. Et puis petit à petit, quand les gens ont commencé à dire bon, c'est bien, il faut qu'on se protège, mais on pourrait peut-être en faire une arme offensive. Certains politiques n'en ont pas voulu. Voilà. Donc on a un peu attendu. Et puis devant, l'extension de ces menaces et de ces attaques, on a décidé de... Alors ça s'est passé de la façon suivante. Comme pour l'espace en 1990, on a pris un officier général. On a dit, tu es l'officier général cyber. Voilà, il y a 20 ans, c'était le général Job qui en avait dit, qui était général de brigade, qui était ancien patron de l'armée de l'air. Tu es l'officier général espace, tu crées une équipe et puis tu nous proposes des trucs. Donc on a pris, c'était un amiral. On a pris le cyber, on lui dit, écoute, tu nous prépares un truc, une équipe, et puis tu réfléchis à un concept d'offensif. Voilà. Alors, sachant que là-dedans, autant sur des moyens terriens, aériens ou maritimes, on est les seuls, dans le cyber, il y a quand même les services qui ont leur propre action. Donc, la feuille est cachée, mais elle n'est pas blanche. Voilà. Donc, on avait quand même des petites capacités. Petit à petit, on a créé, cette armée cyber. Et donc, dans tous les concepts d'opération, il y a la partie cyber, et on a véritablement des gens qu'on met dans le circuit, où on va chercher des civils qui sont vélos pour travailler là-dessus, et les armées développent leurs propres capacités cyber. Alors, j'allais dire, on est moins bons que les bons, et on est meilleurs que les autres. Voilà. Et tout, voilà. Parce que c'est pas notre... C'est un truc qui s'est rajouté. Voilà.
Là, c'est en plus
alors qu'on a déjà tout dégraissé. Oui. Voilà, je rappelle qu'à la fin de la guerre d'Algérie, l'armée de terre avait 1 million d'hommes. Voilà. Actuellement, le commandant des forces terrestres, il a 70 000 soldats. Alors, donc, faut plus en trouver. Hein.
Une couche de plus, toujours sur le cyber, de ce qu'on peut savoir, de ce qu'on lit dans les gazettes, il semblerait que les Russes, pour parler clairement, utilisent des groupes qui n'ont rien de militaire. C'est-à-dire, il y a toute une galaxie de pirates informatiques et tout qui sont et qui est très difficile à démêler. L'idée qu'il y ait des gens, c'est déjà un peu commencé en Irak avec des armées privées qui étaient payées par le Pentagone, donc plus ou moins. Ouais. Donc je vous demande pas de dire qu'on paye des pirates informatiques, mais enfin ça pose un petit problème.
Le problème déontologique, il est d'utiliser des armées privées pour faire le travail des armées régulières. Ça, c'est un vrai problème déontologique. Les Américains sont assis dessus depuis très longtemps, et nous, on est un peu réticents pour des tas de raisons. Voilà. En revanche, utiliser des hackers, est-ce qu'il faut chercher les gens
appeler HH.
Voilà, on peut imaginer que ça se fait.
Ça peut se faire, voilà, on peut l'imaginer, d'accord. Bon, merci de la confidence.
Oui, monsieur.
Oui.
Attends.
Ah oui. c'est pas une question.
Où en est le développement des drones en France ?
Il a commencé. Il a commencé en retard. Il a commencé en retard pour une bonne raison, c'est que je vous raconter mes campagnes. Je rentre du Kosovo, je prends des responsabilités à l'état-major des armées. Et au Kosovo, j'avais comme adjoint, à l'état-major des armées, comme adjoint, comme directeur financier, disons, des armées, le général Paloméros, qui a été après chef d'état-major de l'armée de l'air, et puis un des commandeurs stratégiques de l'OTAN. Et il rentrait lui aussi, un pilote de chasse, il rentrait aussi de là-bas. Et tous les deux, on avait été enthousiasmés par les prédateurs de l'armée de l'air américaine et qui étaient déployés. Donc on revient super fanat. Et on se retrouve en 2002, Jospin avait piqué 15% du budget d'investissement pendant 6 ans de façon consécutive, sans que Chirac dise quoi que ce soit. Et on se retrouve avec plus d'une année de retard d'investissement, des réductions d'effectifs que tout le monde réclamait, une révision générale des politiques publiques par les inspecteurs des finances qui se font en silo sans regarder la cohérence. Et bref, Chirac profite du fait qu'il a retrouvé une majorité pour dire on va donner un coup de pouce pour les armées, qui a duré 2 ans et puis qui a été repris par Bercy tout de suite après. Et que fait-on ? Alors que fait-on ? Les VAB de l'armée de terre étaient criqués. 400 ou 500, dont la majorité était criquée, enfin à bout de souffle depuis 40 ans. Les transals de l'armée de l'air avaient déjà 40 ans, ils ont 55 ans maintenant. Les ravitailleurs avaient déjà 35 ans, ils en ont 50 maintenant. Les sous-marins nucléaires d'attaque français étaient faute d'entretien, il y en avait 1 sur 6 qui sortaient. Les frégates aussi souffraient du mauvais temps, etc., etc. Bon, on fait les comptes, on réduit tout ce qu'on peut réduire. Avant, on va pas commander 120 tigres, on va en commander 80 ou 60, on va pas commander machin, on va pas commander 17 frégates, on en commande 8, on va pas commander, etc., etc., 300 rafales, mais 200, etc. Le compte n'y est pas. On avait introduit les drones. Qu'est-ce qu'on sort dans ces affaires-là ? On sort les munitions, l'infrastructure, les effectifs étaient déjà sortis, les frais généraux avaient déjà été mangés, et bien on sort un truc un peu nouveau que les armées n'ont pas encore et qui nécessite des investissements mais qu'on ne verra pas sur le terrain. Quand le politique nous dit je vous donne de l'argent, je vais voir les résultats, c'est ce que fait Macron en ce moment, hein, il a raison, je vous donne de l'argent, je vais voir les résultats tout de suite. Donc votre serviteur et son adjoint, alors moi j'y connaissais rien mais mon adjoint connaissait tout au drone, on a dit on arrête les drones, voilà. Dans le même temps, après j'ai vu ça chez Airbus, les industriels français n'étaient pas d'accord que Dassault travaille avec personne, si ce n'est avec lui-même, mais c'est le meilleur. Hein. Airbus, petit problème franco-allemand, je vous ai dit que les Allemands, c'est Messerschmitt, ils voulaient retrouver la domination aérienne, donc ils ne passaient pas la copie, etc. Et puis, les Israéliens étaient là en disant, bon, on file des trucs. Les trucs des Israéliens sont pourris. Ça marche bien chez eux, mais comme ils ont un tout petit pays, ils ont juste besoin d'une visée comme au bout de l'arbre, là. Et nous, on a des transmissions qui passent par satellite, qui accrochent un satellite, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a rien fait. On n'a rien fait. Puis on a dit au chef, monsieur le ministre, bon, on va attendre. Les industriels ont refusé de faire une proposition commune. Et Dassault a lancé son drone de combat, UCAV, qui va marcher, qui est l'avion de combat, hein, UCAV, qui va marcher parce que la coopération vue par Dassault, il est le chef, et puis il a 7 pays qui travaillent avec lui, mais sous ses ordres, dans les Suédois que j'ai déjà cités. Et puis les autres, eh bien, on n'est pas arrivé. Donc on a attendu 10 ans à faire des petits bouts d'études, à acheter un truc, et puis quand est arrivé le Sahel, parce que quand on était au Kosovo, des choses comme ça, même en Afghanistan, on est dans l'Alliance, bon, tout ça, on camoufle à la misère. Hein. Au Sahel, on est tout seul. Qui nous aide ? Les Américains. Alors j'ai attaqué les Américains tout à l'heure. Non, j'ai pas attaqué, j'ai dit qu'ils mènent leur politique. Les Américains, ils savent très bien qu'au Sahel, on combat le terrorisme islamique, il n'y a pas de problème. Donc ils nous ont aidés, ils ont filé de drones. Et comme au début, ils ne voulaient pas nous en vendre en plus, Pourquoi on a des missiles de croisière? C'est que les Américains veulent bien en vendre aux Anglais, mais pas aux Français. Donc on s'est fait nos missiles de croisière. Donc ils ne voulaient pas nous en vendre. Et donc ils ont accepté de nous vendre des drones d'observation. Les fameux Reaper qu'on a sur nos... Et alors entre-temps, on a eu un petit drone pour l'armée de terre, des drones de surveillance à courte portée, courte autonomie, toujours pour l'armée de terre, et on n'a jamais eu de drones qui durent 20 heures ou 24 heures, et pour lesquels ce n'est pas tellement l'avion qui est important, c'est les équipements qu'on met, et surtout la transmission de données et le traitement des signaux, c'est là où il a fallu qu'on apprenne tout. Bon, on a appris, hein, mais on a appris avec 10 ans de retard. Donc on est très en retard, et en catastrophe, le Drian a racheté quelques drones Reaper aux Américains. Bien sûr, dans ces cas-là, on paie trois fois le prix.
Ah. Bien.
Une autre question, où en est Galiléo ?
Ça marche.
Oui, mais pour les militaires, mais pas pour les privés.
Si, ça coûte cher. Vous pouvez avoir le GPS Galiléo sur votre smartphone. D'accord. Ça vous coûte un peu cher, mais vous mettez Galiléo sur votre smartphone. Oui. Vous pouvez mettre l'application, hein, ça marche.
Je vous propose qu'on arrête là, qu'on remercie l'amiral Goldefy, parce qu'on va passer à la séquence suivante.
Ah ouais.
Ah oui.
Ah ouais.